Provence-Alpes-Agglomération en tête de la transition écologique. P2A est en tête, TET, ce qui signifie qu'elle est un territoire engagé pour la transition énergétique écologique. Un projet qui s'inscrit dans un projet de transition pour l'agglomération, rénover dans sa globalité la production de chaleur pour une réduction des consommations d'énergie et une réduction de gaz à effet de serre. Jean-Yves Ranouille accompagne l'agglo depuis 2018, spécialiste des énergies, des systèmes de chauffage, de télégestion, de maîtrise des énergies, des contrats de performance énergétique. Il est assistant à maîtrise d'ouvrage, nous l'entendrons dans un instant, puis Sandrine Cossera, vice-présidente à P2A, déléguée à la transition énergétique écologique et citoyenne, au micro d'Odile Frison. On les écoute.
Depuis 2018, donc première opération, c'est la mise en place, on va dire, d'un contrat de performance énergétique, donc un marché d'exploitation sur les installations de chauffage, ventilation et de climatisation, même si la climatisation dans la région, ça reste pour l'instant à la marge. Ce marché, on va dire, a démarré en 2019 et se termine en 2024 et va être relancé prochainement. Donc, ce marché, on va dire, a permis effectivement d'améliorer et a contribué, on va dire, à l'amélioration des performances énergétiques de l'ensemble du périmètre des bâtiments qui sont dans ce contrat. Parallèlement à ça, donc la mise en place de ce marché, il y a eu un certain nombre d'échanges avec la collectivité dans la mise en place d'un programme, donc d'un plan pluriannuel d'investissement destiné, on va dire, justement à l'amélioration des installations techniques. Donc en fait, ça contribue à plusieurs choses, hein. La première, alors pas forcément dans un ordre bien défini, mais ça sert aussi à remettre à niveau les installations vétustes non conformes. Donc ça a été l'objet, on va dire, de ce point qui a été traité, donc modernisation et rénovation des installations. Le deuxième intérêt, c'est effectivement de pouvoir, on va dire, sortir des énergies fossiles et particulièrement du fioul, hein, puisqu'aujourd'hui, on va dire, il y a presque plus de chaufferies, j'allais dire. Il y en a encore une toute petite qui est à musée-atelier, mais bon, je pense que ça va être traité très prochainement. Mais on va dire, globalement, l'ensemble des bâtiments ouverts au public sont sortis du fioul aujourd'hui, au niveau de la collectivité. Et puis, bien sûr, ça réduit donc les consommations d'énergie, le fait de moderniser les chaufferies, hein. En fait, l'idée, c'est de rénover dans sa globalité la production de chaleur, pas juste remplacer la chaudière, mais traiter, on va dire, l'ensemble de la production de chaleur dans sa globalité, quoi. Donc, réduction des consommations d'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, hein, puisque le fait de passer du fioul, soit du gaz, soit du bois pelé, a permis effectivement de réduire les émissions, on va dire, de gaz à effet de serre. Voilà. Et puis, dans les différents travaux qui ont été proposés, c'était aussi, parallèlement, alors soit la rénovation des chaufferies, mais en allant plus loin, c'était de mettre en place un système de télégestion qui permettait effectivement d'optimiser toute la régulation, puisque une grande part des économies d'énergie, on va dire, est susceptible d'être réalisée, notamment avec une meilleure adaptation entre l'utilisation, l'occupation, l'exploitation et le fonctionnement des installations. Voilà. Depuis maintenant 5 ans et demi, donc, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été réalisés sur l'agglomération. Donc, pour les lister, il y a Font-Robert, donc passage du fioul au gaz avec la mise en place d'une télégestion, ça c'est en 2021. Parallèlement, il y a eu Château des Sieilles, effectivement, même cas. Suppression du fioul, passage au gaz de ville avec mise en place d'une télégestion. 2022, on a fait donc le service des eaux à Seigne, donc là, suppression du fioul, passage au bois pelé. Toujours pareil avec la télégestion. Dans la même année, l'abattoir de Digne, donc suppression du fioul, passage au gaz avec télégestion, et dans la même année, remplacement de la vieille chaudière gaz en centre-ville de Digne pour passage sur une chaudière gaz à condensation avec la mise en place d'une télégestion. Et cette année, donc le musée promenade, suppression du fioul pour la partie musée avec passage sur bois pelé. La chaufferie ici, donc d'IDBL, suppression du fioul avec passage sur une chaufferie mixte, donc là, bois et gaz, plus la télégestion. Et puis sur l'année 2023, on va dire, donc mise en place de télégestion sur 5 sites de la collectivité qui ont permis, on va dire, d'améliorer le bon fonctionnement et on va dire de permettre des économies. Alors aujourd'hui, si peut-être quelques chiffres, si effectivement on globalise depuis la mise en place du marché, de performance énergétique en 2019 à aujourd'hui, à rigueur climatique équivalente, hein, parce qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable, on est pratiquement à 30% de gain de consommation d'énergie sur le poste chauffage. Donc avec des variations, hein. Donc ça veut dire qu'on est globalement assez proche des objectifs du décret tertiaire, hein, parce que même si tous les bâtiments rentrent pas dans le décret tertiaire, hein, suivant la surface, l'objectif du décret tertiaire c'est moins 30% à l'horizon 2040. En 5 ans, on est à 30% sur le poste chauffage. Après, il y a d'autres postes, hein, on va dire consommateurs d'énergie. Bon, normalement, dans les Alpes, la climatisation, ça doit être à la marge. Après, les autres postes, c'est effectivement les autres usages, comme l'éclairage, par exemple, qui peuvent effectivement être améliorés. Voilà, donc, à titre d'exemple, IDBL, on est aujourd'hui à moins 29% par rapport à la saison 2019-2020, sachant qu'on a encore une marge de progrès, hein, c'est un site qui vient de démarrer. On est en fin de phase mise au point, mais on voit bien qu'on a encore un peu de marge de progrès. Le musée, on est à moins 32, le siège à moins 27. Alors, c'est vrai que le siège d'IDBL, il venait d'avoir aussi des gros travaux d'ITE. Donc, c'est moins 27 hors l'isolation extérieure. Sinon, on serait à une réduction de 2,5 fois environ de la conso d'énergie. Quoi. Donc, c'est effectivement très intéressant. Et puis, Font-Robert, on est à moins 52%. Vous voyez qu'il peut y avoir des gros gains de consommation d'énergie sur une rénovation complète d'une chaufferie avec une mise en place d'une télégestion. Alors évidemment qu'on peut faire de l'ITE ou travailler sur le bâti, c'est encore mieux, mais on ne peut pas toujours. En ce qui concerne ce projet donc sur IDBL, c'est un dossier qui a été ouvert en 2022 avec les premières études de faisabilité en partenariat avec le SDE 04 et l'ADEME. Hein, donc il y a eu un certain nombre d'échanges sur l'étude de faisabilité. Cette étude, elle a été conduite aussi dans une perspective de travaux à venir sur le bâti. Donc, il faut toujours se poser la question, quand on rénove une installation, de ne pas compromettre l'avenir avec des travaux futurs, et notamment quand on veut travailler sur l'enveloppe. Donc, raison pour laquelle ça a conduit à la mise en place d'une chaudière bois un peu plus petite que s'il n'y avait pas eu ce projet-là, donc un peu sous-dimensionnée, en termes, je dirais, de ce qu'on appelle de taux de couverture bois. Aujourd'hui, on va dire à l'heure d'aujourd'hui, sur la première année d'exploitation, on a un taux de couverture bois environ de 90%. Mais bon, on n'a pas eu d'hiver, donc quelque part, c'est pas mal. Et on a eu quelques petits soucis techniques, je dirais, d'appro de bois, de convoyage. Donc ça veut dire qu'on aurait pu pratiquement être à 100% si on n'avait pas eu ces petits désagréments, mais avec un hiver relativement doux. Donc, avec un hiver normal, je pense qu'on aurait été effectivement un peu moins bon, mais la logique veut qu'à l'issue des travaux d'ITE, effectivement, on ait un taux de couverture bois au moins de 90, voire plus en termes de couverture bois, et donc le gaz venant en relève, donc en complément de puissance, ou en appoint secours, en secours, quand la chaudière bois, elle est tombée en panne d'un pro de bois, on a bien été content, enfin du moins. L'établissement a bien été content d'avoir effectivement un
secours au gaz. Sandrine Cossera, vice-présidente de Provence-Alpes Agglomération, déléguée à la transition écologique
et citoyenne.
Aujourd'hui, c'est l'inauguration donc de ces nouvelles chaudières et installation de chaudières et de circuits de chauffage des bâtiments de l'IDBL, notamment. Oui, c'est la fin de la première phase.
Voilà, d'un grand programme qui concernait plusieurs bâtiments, hein. La ferme de Font-Robert à Château-Arnoux, le siège de l'IDBL, le musée promenade, pas mal de bâtiments, 6 je crois, pour lesquels on a supprimé le fioul déjà et parfois remplacé aussi des vieilles chaudières gaz par des chaudières à condensation beaucoup plus performantes et donc parfois quand on pouvait aussi mis en place des chaudières bois. Bois granulé, et quand on peut, c'est bois plaquette, mais là, c'était surtout du bois granulé. Et donc, l'objectif pour nous, alors on couple ça, c'est-à-dire le changement, mettre des chaudières, on va dire, de nouvelle génération et moins émettrices de gaz à effet de serre, on l'a couplé avec de la mise en place de la télégestion, qui permet en plus de ne chauffer que quand, là, où c'est intéressant, où on en a besoin. Rien que le changement des chaudières, donc en plus de supprimer le fioul, ça a permis de faire déjà un gain d'efficacité de thermique de 30%. Mais là, avec l'optimisation de la télégestion, on espère même atteindre des niveaux plus importants dans les mois et années à venir.
Un coût financier évidemment important, mais vous avez de nombreux financeurs, de nombreuses aides.
C'est ça, donc vous avez vu, c'est un programme à peu près à 660 000 euros pour ces bâtiments. Et on a eu l'État qui a été bien sûr à nos côtés, hein, de façon très significative, plus de 50% financé par la DETR et la DECIL. Et aussi à nos côtés, via la gestion de nos dossiers par le syndicat, le SDE, qui gère le fonds chaleur pour la région et l'ADEME, on a obtenu aussi un certain nombre d'aides. Donc si on regarde les aides et l'économie d'énergie qu'on fait, finalement, on a vraiment raison d'y aller parce que ce sont des projets qui quasiment s'autofinancent en quelques années. Et après, c'est du gain net pour la collectivité. C'était essentiel, surtout à l'heure où les énergies augmentent. On a lancé ça, nous, un peu avant l'augmentation très forte du coût des énergies. Hein, et... bien nous en a pris parce que, en fait, ce sont aussi pour l'agglo des coûts évités importants.
Alors, c'est un investissement à la vue, donc vous êtes noté, c'est ça, 35 sur 100?
Oui, alors, effectivement, j'ai contextualisé en expliquant qu'au niveau national, donc il y a des référentiels et Provence-Alpes Agglomération, suite à l'acte très fondateur et engagé de la présidente qui nous a fait voter la déclaration d'état d'urgence climatique, dans lequel nous nous sommes engagés à agir beaucoup et vite sur ces sujets-là. Nous sommes aussi rentrés dans un référentiel national qui s'appelle le plan climat air énergie. Plus on a été un des 10 territoires à l'échelle nationale à rentrer dans le COT, contrat d'objectif de territoire, ce qui nous a permis finalement d'accélérer notre évaluation dans deux référentiels, climat air énergie et économie circulaire au niveau national, et de s'évaluer. Donc effectivement, aujourd'hui, on a une note honorable au départ de notre engagement qui est déjà de 35 sur 100. Et on vise d'ici la fin de notre plan climat qui dure jusqu'en 2025 à atteindre 50%, la troisième étoile, si je puis dire. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on se positionne clairement comme un territoire pilote, locomotive de la transition. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'agglomération qui se positionne ainsi. Et quelque part, dans sa dynamique, elle entraîne aussi les 46 communes qui la composent, puisqu'on bénéficie à travers de notre agglomération d'un service de maîtrise de l'énergie qui non seulement agit pour l'action éco-responsable de l'agglomération, mais qui en plus aide les communes à s'engager aussi. Donc que ce soit pour rénover thermiquement leurs bâtiments, ce dont on a parlé aujourd'hui, pour accélérer les ENR, développer le photovoltaïque, pour éteindre les lumières la nuit. Et donc là, pareil, on est dans une dynamique très forte de transition, puisque non seulement on a quasiment maintenant toutes les communes de l'agglo qui pratiquent l'extinction, et en plus, on s'engage dans un projet réserve internationale de ciel étoilé. Donc vous voyez, en fait, on avance en permanence avec des dispositifs qui existent et auxquels maintenant, compte tenu de notre dynamique, nous pouvons prétendre et finalement, je vous dis, devenir un peu une locomotive de la transition.
Et comme l'a dit la sous-préfète tout à l'heure, c'est important que l'État vous soutienne et continue à vous soutenir jusqu'à la fin de cette évolution.
Absolument. Donc on peut vraiment compter sur ce soutien. Il est présent systématiquement, que ce soit sur les sujets de la rénovation thermique de nos bâtiments, la mise en place de la télégestion, les études aussi qu'on peut faire maintenant grâce au fonds vert et l'éclairage public. Enfin voilà, donc on en a besoin. Ils sont là, la région est là, l'ADEME est là, le SDE qui gère leurs fonds sont là aussi. Donc je dirais que maintenant, il faut qu'on continue et puis qu'on marque des points pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et à la fois protéger l'environnement et protéger les deniers publics de l'agglomération.
Donc un territoire en tête.
Effectivement, nous sommes un territoire en tête, c'est-à-dire territoire engagé pour la transition énergétique.
Merci.
Écologique.